Quand on m'a annoncé, il faudrait faire un culte de réveil de l'ordre. J'ai commencé par trouver ça un peu étrange comme concept. Puis je me suis posé cette question qui finalement a présidé la plupart des choix importants de ma vie. Pourquoi pas? Le problème, vous vous en doutez, c'est que l'orgue n'est pas un instrument biblique. Or, il y a bien la traduction par Théodore de Bèze du psaume 150. Nous le chanterons tout à l'heure. Il a bien cette traduction « Que pour lui, les orgues chantent ». Bon, on affirmera que c'est au mieux une licence poétique, au pire un anachronisme. Il faut dire que les allusions aux instruments de musique sont légion dans la Bible, mais qu'on doit souvent déduire, pour ne pas dire deviner, ce qui se cache derrière les mots hébreux. Dans le doute, les réformateurs, en tout cas selon mon prof de théologie pratique, les préconisaient le seul instrument clairement attesté dans la Bible. Ah, non mais l'instrument, alors la voix c'est vrai que c'est une bonne réponse, mais... Parce que la harpe, c'est une traduction de l'instrument ainsi comme... Non, c'est la trompette, évidemment. La trompette de Jéricho, enfin voilà. Alors je ne sais pas si vous voulez détruire les temples, enfin bon, mais c'est pas le sujet. Bref, je ne sais plus ce que je disais, c'est bravo. Voilà, trompette. On se méfiait de l'orgue, trop riche, trop imposant, trop décoré, souvent un signe extérieur de richesse de l'Église, ou démonstration de la générosité d'un donateur, et qui surtout avait tendance à écraser de son son puissant le chant de l'Assemblée. Oui, à la Réforme, grande révolution, les cantiques sortent du domaine réservé des clercs pour s'offrir à l'Assemblée des fidèles. Il serait alors dommage que leur voix soit écrasée par le son d'orgue pas toujours bien accordé, contrairement au nôtre, donc désormais. Donc, un culte de réveil de l'orgue. Il faudra bien sûr, me suis-je dit, que ce soit un culte rendu à Dieu et pas à l'orgue. Et donc, forcément, c'est poser la question, finalement, c'est quoi un culte? On peut répondre à cette question de façon technique, comme on l'a fait dans notre rencontre à la formation des prédicateurs. Mais qu'en dit la Bible? C'est important pour nous, protestants luthéro-réformés, de savoir ce que dit la Bible des célébrations. Il y a, bien sûr, dans le livre, des descriptions pour des célébrations particulières, la consécration du temple, des fêtes de sacrifice. Mais il faut avouer assez peu de descriptions d'un culte ordinaire. Et rien du tout à propos d'un réveil de l'orgue. Alors, le psaume 150 s'est imposé à moi, et quand j'ai posé la question à Marie-Vol, elle m'a aussi spontanément suggéré ce psaume, ce même psaume 150, on va donc considérer que c'est un signe. Donc vous avez eu droit au psaume 150, qui se trouve être le dernier du livre des psaumes. Il le conclut d'ailleurs assez heureusement, puisqu'il évoque les différentes manières de louer Dieu. Il commence par inviter à louer le Seigneur, puis il liste les lieux où on peut le faire, les raisons pour lesquelles on peut le faire et les façons dont on peut le faire. Alors bien sûr, il ne faut pas tenir ces listes pour exhaustives, mais cela fait ressortir une diversité des lieux, des raisons et des méthodes. Et après avoir évoqué où, pourquoi et comment, il s'achève en évoquant qui. La réponse, tout ce qui respire, tout ce qui vit. Et puisque c'est le comment qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons remarquer la liste variée des instruments, dont la plupart, je le rappelle, sont à deviner, au rang desquels figure notablement le corps, puisqu'est évoquée la danse. Un culte n'est pas seulement un événement cérébral, mais aussi corporel. La danse, dans le culte, il est vrai, ne fait pas tout à fait partie de nos traditions et habitudes occidentales et réformées. J'en sais même que, j'en connais même qu'il y a parmi, je sais même qu'il y a parmi nous des personnes qui n'aiment pas, voire que cela dérange,
qu'on, lors des chants,
l'assemblée bat des mains.
Je ne le reproche pas, chacun ses goûts,
chacun sa sensibilité,
et je ne chercherai même pas à les convaincre du bien fondé de cette pratique, mais je fais juste remarquer que ce n'est pas bibliquement prohibé, ni d'ailleurs obligatoire.
Bon. Donc le psaume 150 s'est imposé à moi, et je me suis même interrogé. Je me suis encore interrogé, a-t-on des exemples de culte dans la Bible ? Il y a bien Jésus à la synagogue au début de son ministère, mais à part la lecture du prophète Ésaïe et la prédication sans doute la plus courte de l'histoire de l'humanité, on n'a guère de description utile à l'élaboration d'un culte. J'ai alors pensé à l'incident de Titus dans le livre des Actes. Parce que si Jésus avait été bref dans sa prédication, je vous la redis en entier, ça ne prend pas de place, hein, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez, c'est vraiment court. Celle de Paul, elle, en revanche, se trouva être longue, extrêmement longue, et à en croire la Bible, mortellement ennuyeuse. Je me suis persuadé qu'il y a dans ce récit une petite pointe d'humour contre la tendance de Paul à trop parler et à tout vouloir régler, à tout vouloir régenter. Même la conclusion prête à sourire. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Une consolation de quoi, puisqu'il n'était pas mort ? Une consolation peut-être à la prédication interminable de Paul, allez savoir. Nous nous sommes tous un jour surpris à espérer qu'un incident vienne mettre fin à une prédication, une conférence ou un discours, sans souhaiter la mort de qui que ce soit. Mais là, ça n'a même pas suffi. Paul s'est brièvement interrompu, a dit « tout va bien » et a repris son enseignement. Et on ne retient généralement de cet épisode que le miracle du retour à la vie. Mais il y a sans doute un enseignement à tirer pour les prédicateurs. On se dit qu'un discours moins long ou que la présence de cantiques, voire d'un orgue bien sonore, aurait pu éviter l'assoupissement et la chute de Titus. Paul devait partir et avait tant de choses à dire. Mais que retiendront les gens ? Le miracle. Ironie biblique sans doute, même Luc, l'auteur du récit, ne relate aucun mot du discours qui a pourtant duré toute la nuit. Pour être honnête, pour ne pas trop charger Paul non plus, on peut retenir à sa décharge que Titus avait sans doute derrière lui déjà une journée de travail, que la fumée des lampes pouvait faire tourner la tête et que les considérations de Paul pouvaient passer un peu au-dessus des attentes du jeune homme. Mais dans ce récit, le culte se résume à un enseignement et un repas partagé. La première phrase lue donne même le ton. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Ce qui fonde le culte, c'est le partage. Mais quel est le but ? Le culte a-t-il seulement un but ? Rendre grâce à Dieu, soit, mais à qui est-ce profitable ? À Dieu, à nous. Depuis quelques mois, une question vient de temps à autre me hanter. Quand je vais au culte, comme membre de l'assemblée, pas comme prédicateur, est-ce un acte de pure gratuité ou suis-je en droit d'espérer en tirer un bénéfice personnel ? Par bénéfice personnel, j'entends bien évidemment sur le plan spirituel, moral ou intellectuel. Chaque fois que je soutiens l'une de ces deux alternatives, enfin l'un des deux termes de cette alternative, pure gratuité ou légitime attente, je suis contredit par mon interlocuteur et je change d'avis. Une vraie joie, une vraie girouette. Impossible de me faire une opinion et de m'y tenir. C'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Le culte est une aporie. Une contradiction irrésolue. Il ne doit être ni utile, ni inutile, ni être obligatoire, ni être facultatif. Ou alors, au contraire, il doit être à la fois utile et inutile, obligatoire et facultatif. Débrouillez-vous avec ça. De même, on est en droit de s'attendre à la grâce de Dieu
alors qu'elle n'est pas due, qu'elle est un acte qui relève de la pure, du pur arbitraire de Dieu. Nous sommes dans cette question. Vais-je au culte pour recevoir, mais alors ce n'est plus un acte gratuit, ou vais-je au culte par pure gratuité, mais alors je n'en attends rien ? Ainsi, les participants à la réunion de Paul repartiront transformés par ce qu'ils y ont vécu, ben, surtout Eutychus, j'imagine. Mais ce ne sera certainement ni ce à quoi ils s'attendaient, ni ce qu'avait prévu Paul. Eutychus, quant à lui, sera mort et revenu à la vie comme ça, sans doute, sans rien y comprendre. Mais ce n'est pas là le sens, mais n'est-ce pas là le sens même d'une expérience spirituelle ? Mourir à la mort et ressusciter à la vie. Les paroles de Paul, tout intelligentes et profondes qu'elles pouvaient être, furent cause de mort. Mais la grâce de Dieu les transforma en puissance de vie. Paul fit sans doute de son mieux, mais il ne fut pour rien dans ce miracle, sinon son occasion. Il est temps pour moi de conclure avant que vous ne tombiez de votre banc, à défaut de la fenêtre, et je vous invite donc, tant que vous remplissez les conditions, à louer Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur.